parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour interroger le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques? Allez, on va faire un peu de technique et pourquoi pas politique surtout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'adoption de l'IA générative par les petites et moyennes entreprises. Le Hub France IA vient de mener une étude pour essayer de comprendre où en sont ces entreprises. Quelles difficultés et succès elles rencontrent, à quels risques et défis elles font face, comment l'écosystème IA doit s'y prendre pour les accompagner et les aider.
Cause Commune 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur cause-commune.fm et sur son app mobile, bien entendu, la bande FM à Paris 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit pouce bleu sur YouTube. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Récemment, dans Parlez-moi d'IA, nous avons fait le point sur l'usage de l'IA au sens large dans les collectivités territoriales. Nous en avons parlé avec Jacques Priol, président du collectif Data Publica et du cabinet de conseil Civitéo. Bon, si vous avez loupé, c'est l'émission 49 et vous retrouverez tout ça sur notre site ou sur votre plateforme de podcast préférée. Je disais l'IA au sens large car aujourd'hui, on va se focaliser sur l'IA générative. L'IA qui vient d'arriver. Pour rappel, c'est la forme d'IA qui a explosé au sein du grand public avec l'arrivée de ChatGPT. Ses caractéristiques principales sont sa capacité d'usage et sa facilité d'usage via une fenêtre de chat ou de prompt dans laquelle on donne des instructions et sa capacité à générer, d'où son nom, hein, l'IA générative, de nouveaux contenus, textes, images, sons, vidéos, à partir de ce qu'on lui demande. Donc aujourd'hui, on se demande comment les TPE, alors les TPE pour rappel, hein, c'est de 0 à 10 employés, les PME de 11 à 250 employés ou les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui font quand même 250 à 5000 employés, se sont emparées de ces outils. Comment elles s'en servent? Une étude a été menée justement par le Hub France IA, et c'est notre guide aujourd'hui. Et à travers ces résultats de cette étude, on va en parler avec le directeur de programme du Hub. Bonjour Pierre Monger.
Bonjour Jean-Philippe.
Bienvenue, alors pas en studio, mais à distance. Bienvenue quand même à l'antenne de Cause Commune. Pierre, parlez-moi d'IA. On peut peut-être commencer par votre parcours, qui est très IA pour le coup, et votre expertise. Vous êtes ingénieur, vous avez ensuite passé un master en gestion des entreprises, et là en ce moment vous êtes en plein doctorat sur l'IA, ça c'est pas banal, appliqué au business, avec une thèse spécifique sur l'adoption de l'IA par les TPE-PME. Vous êtes en plein dans le sujet en fait.
Tout à fait, tout à fait. Bah, de par mes fonctions de directeur de programme au sein du Hub France IA, j'encadre les activités des groupes de travail et des projets, tous en lien avec l'IA, avec l'IA générative qui a une grosse prédominance. Et effectivement, en parallèle de ça, je mène une thèse sur l'adoption de l'IA générative par les entreprises, principalement un focus sur les TPE et les PME. Et donc, l'étude dont on va parler aujourd'hui s'inscrit à la fois dans ma thèse, mais aussi est en relation avec les travaux du Hub France IA, et donc les deux thématiques s'alimentent.
Coup double, du coup, vous cochez les deux cases, sans déflorer votre conclusion, vos conclusions. C'est quoi les grandes lignes directrices de votre thèse, finalement, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Parce que c'est une thèse que vous allez poursuivre jusqu'en 2025, c'est ça, si j'ai bien compris?
Tout à fait. Alors la thèse va se terminer fin 2025. Elle se résume en trois grandes parties. La première, étant donné qu'il y a aussi beaucoup d'interactions avec les projets sur lesquels je peux être dans le cadre du Hub France IA, la première c'est plutôt l'étude et le marché européen de l'IA notamment que ce soit dans les entreprises mais aussi les acteurs publics. On va attendre l'administration, les collectivités, les conseils régionaux et ça à travers l'Europe. Donc c'est un peu l'état du marché de l'IA en Europe, pas que l'IA générative mais toute technologie confondue. La deuxième partie de ma thèse, elle est plutôt elle va plutôt faire un focus sur eh bien les problématiques de l'IA générative, mais problématiques plutôt d'ordre technique ou d'ordre de coût ou juridique que rencontre la communauté. Je donne un exemple, par exemple les hallucinations.
Ouais.
Et à chaque fois pour ces problématiques, je viens qualifier le degré de maturité de la communauté IA sur ce sujet. On va reprendre les hallucinations, c'est un sujet qui commence à être bien éprouvé et sur lequel il y a quand même pas mal d'articles. Et un deuxième axe qui est celui de la difficulté de mise en œuvre de la solution pour venir contrer cette problématique. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie active. C'est plutôt une série d'enquêtes à la fois quantitatives, donc celle où j'ai interrogé à travers cette étude les TPE, les PME, les ETI, et une deuxième enquête qui va suivre, plutôt premier trimestre 2025, qui va être une enquête qualitative cette fois-ci, avec une série d'entretiens, probablement autour d'une vingtaine, de start-up IA pour venir justement un peu qualifier ces problématiques d'ordre technique autour de l'IA générative pour venir affiner la propre mesure que j'ai pu faire en termes de maturité et en termes aussi de mise en œuvre, de complexité de mise en œuvre des solutions.
Donc tout ce que j'entends finalement, c'est que vous avez aussi participé aux autres grandes publications, du Hub sur l'IA générative, notamment le livre blanc sur les risques de l'IA générative, où on parlait quand même beaucoup de justement des hallucinations et des biais. Vous y aviez participé ?
Alors, pas en contributeur direct, puisque on a beaucoup de livrables qui sont produits par les groupes de travail du Hub Francia, donc par bande passante, tu ne peux pas être impliqué dans tout. Mais celui-ci, effectivement, tout à fait. Donc celui-ci, je l'avais relu, donc j'en connais la teneur, mais non, je ne contribue pas à tous les livrables. C'est aussi pour ça qu'on a un groupe de travail, une communauté de membres et de contributeurs, et encore une fois, merci à eux, parce que le Hub Francia est une association, on ne pourrait pas faire tout ça sans eux.
Et l'autre document de référence, c'est le guide, alors je ne sais pas si vous y avez participé du coup, mais c'est le guide complet sur la manière de choisir son modèle d'IA générative pour son organisation. Alors là, c'est carrément l'idée de d'aider en fait les entreprises à choisir leurs outils, à choisir leurs modèles en fonction des situations dans lesquelles ils sont et des données qu'ils doivent ou qu'ils peuvent exploiter, c'est ça ?
Tout à fait, et puis il y a notamment les critères de l'option, donc ils ont mené aussi dans le cadre de ce guide une enquête au préalable, alors une enquête auprès des entreprises, d'ailleurs je m'en suis servi comme source pour compléter certaines questions et ça pouvait faire aussi un élément de suivi. Ils vont également regarder les critères de l'option, donc tout ça est détaillé dans le guide, et en parallèle ils ont aussi mené une série d'interviews avec les fournisseurs de grands modèles de langage, donc on va retrouver notamment tout ce qui va être autour de Microsoft, de OpenAI, pour ceux qui ont bien voulu, bien sûr, se prendre au jeu. Et donc, ils ont défini un guide d'entretien avec un certain nombre de questions auxquelles ils ont soumis les interlocuteurs qu'ils ont pu avoir. Et donc là, la variation des réponses est assez large, parce qu'il y en a qui ont répondu de manière assez haut niveau, sans trop rentrer dans le détail volontairement certainement, et d'autres qui sur certains volets sont rentrés beaucoup plus dans le détail, et d'autres qui tout simplement n'ont pas accepté l'interview, et donc là ils ont croisé avec des données qu'ils ont pu trouver de manière publique pour essayer d'apporter des réponses aux questions qui sont les mêmes d'une interview à l'autre.
Oui, vous avez quand même réussi à être exhaustif dans le guide malgré le manque de, on va dire, de réponses, pour pas dire de transparence de certains des grands modèles. Donc là, on a parlé des documents de référence. Ça, c'est des documents de référence vraiment sur l'IA générative. Je conseille à nos auditrices et auditeurs d'aller les voir si ça intéresse le sujet de l'IA générative. C'est vraiment des documents de référence sur le sujet. Mais ça dit pas, en fait, et on a un peu pris les choses à l'envers, mais ça dit pas ce qu'est, en fait, aujourd'hui le Hub Francia. On a déjà reçu ici votre dynamique directrice Caroline Chopineau, mais peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu les missions du Hub et comment le Hub fonctionne.
Oui, tout à fait. Alors le Hub, avant tout, le Hub Francia, nous sommes une association de loi 1901 à but non lucratif. Donc on est une association indépendante, privée, dans le sens où on n'a pas de financement direct de la part d'un quelconque ministère. Oui. Donc pour ça, on a deux sources de revenus. Bah, d'une part, ce sont les cotisations de nos membres qui adhèrent à l'association, comme toute association. Et deuxièmement, je disais tout à l'heure que moi, j'étais aussi impliqué sur des projets, c'est qu'on va répondre à des appels à projets en IA, forcément. Et donc, sur l'équipe opérationnelle, on est 8 pour faire tourner l'association au quotidien avec nos membres. On va répondre à ces appels à projets, on va toucher les subventions de projets. Oui. Et donc, la mission du Hub France IA, eh bien, c'est de fédérer les initiatives IA en France et de soutenir le développement et l'essor de l'écosystème IA français, mais aussi européen, puisqu'on a des partenaires européens qui sont d'autres associations nationales en IA, et on s'est regroupé sous une même association européenne. Et pour mener à bien cette mission, eh bien, on va aussi proposer des activités à nos membres. On a un peu plus de 250 membres, grosse majorité des startups en IA, mais on va aussi avoir des utilisateurs de solutions IA qui vont justement être des PME, des ETI, des grands groupes, mais aussi des organes, des institutions universitaires ou académiques. Et pour cela, on va leur proposer trois grandes activités. À la fois, eh bien, la partie promotion, mise en visibilité de l'écosystème qui va passer par la mise en visibilité sur des newsletters. On a aussi une grosse communauté Slack, ou bien on va être présent sur des salons et on peut aussi avoir des stands mutualisés. La deuxième action, c'est qu'on va relayer une veille d'appel à projet, toujours en IA, et on va aider, dans la mesure du possible, à connecter les membres qui souhaitent monter des consortiums pour répondre à ces projets à des partenaires. Et enfin, on va avoir des groupes de travail. Donc, on a actuellement 11 groupes de travail actifs, tous en lien avec l'IA, soit sectoriels, comme la santé, soit transverses, comme l'environnement que je pilote d'ailleurs, enfin que je copilote avec Nancy Chabot. Et donc, dans ces groupes de travail transverses, on va aussi retrouver l'éthique ou la veille réglementaire ou l'AI Act. Et enfin, on a des groupes de travail plutôt liés à une technologie comme voix et langage ou IA générative, qui est tellement conséquent qu'il y a des sous-groupes de travail et qui ont notamment produit des livrables qu'on a pu évoquer il y a quelques minutes.
C'est ça, c'est dans ces groupes de travail-là que vous produisez ces livrables-là qui font après référence globalement. Alors, vous n'êtes pas effectivement financé par un ministère, mais vous participez pleinement de la stratégie nationale sur l'IA. Ça, c'est un peu votre leitmotiv bien normal. J'ai noté aussi quand même que vous insistez fortement sur le fait que vous développez et vous souhaitez développer une IA avec trois mots-clés importants: responsable, éthique et souveraine. Et donc ça, c'est important aussi de le dire. C'est l'écosystème français qui se mobilise pour le développement de l'IA. Très bien. Bon, là, on a fait un peu le tour on a refait le tour parce qu'on connaissait déjà un petit peu quand même le Hub France IA ici. Et donc, cette étude, vous l'avez menée aussi en liaison finalement avec l'initiative, la démarche PAC IA de la région Île-de-France. D'ailleurs, vous l'avez présentée pour la première fois il y a quelques jours en décembre 2024, justement dans le cadre d'un événement autour de PAC IA région Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le PAC IA Île-de-France et puis voilà, comment il fonctionne globalement?
Oui, alors le PAC IA, c'est un très beau dispositif qui a été à l'initiative lancé et qui est piloté d'ailleurs par la région Île-de-France, qui s'adresse à des PME basées en Île-de-France qui généralement souhaitent faire leur premier pas en IA et donc réaliser leur premier projet en IA, toute technologie d'IA, pas nécessairement IA générative. Ouais. Et en face d'elle, on va avoir un réalisateur IA, qui généralement est une start-up en IA, qui doit également être basée en Île-de-France. Et pour piloter ce dispositif, il y a deux partenaires. Sur la partie technique, il va y avoir le Hub France IA, et sur la partie plutôt financière administrative, il va y avoir l'IMT Terra Lab, donc IMT pour Institut des Mines Télécoms. Et comment ça se passe au quotidien? Donc, une PME peut candidater au dispositif PAC IA. On va recevoir, quand je dis on, c'est le Hub France IA, son dossier. On va réaliser une réunion de cadrage avec cette PME pour identifier ses différents besoins métiers et lesquels pourraient donner lieu à un projet PAC IA. Ensuite, on va pré-sélectionner des réalisateurs IA parmi le réseau du Hub France IA. C'est la PME qui va avoir le dernier mot sur la sélection. Mmh. Et une fois que le projet est validé, le projet va se lancer. À noter aussi que le projet est financé par la région Île-de-France à une hauteur de 50%. Donc, ce sont des projets de 37 000 euros financés à 50%. Donc, il y a 18 500 euros, qui sont financés par la région Île-de-France à la PME. Donc, ça fait quand même un petit fonds d'amorçage qui permet à la PME, et notamment, on le verra dans les stades de l'étude, mais la capacité financière est un gros enjeu. Et donc après, comment ça se passe? Le projet se lance, et une fois que la réunion de cadrage est passée, c'est 3 mois pour atterrir sur le projet. Donc généralement, on arrive sur un démonstrateur ou alors des modèles pré-entraînés qui sont très proches du niveau de qualité attendu en production. Et à chaque mois, il y a une réunion de suivi organisée par l'Hub France IA pour s'assurer qu'entre la PME et la start-up en IA,
ça le projet
se déroule bien. Et surtout, on atterrit en 3 mois, parce que 3 mois, c'est très, très rapide.
Et comment ça se passe? C'est des saisons d'appel à projet ou c'est au fil de l'eau? Une entreprise, tout d'un coup, a un souhait de test et de réalisation IA. Elle remplit le dossier, finalement, sur le site qu'on n'a pas cité d'ailleurs, mais c'est qui est pakia.fr, si je ne dis pas de bêtises. On le redonnera de toute façon en description de l'émission. Comment ça se passe? C'est au fil de l'eau? Vous recevez les demandes au fil de l'eau et vous les traitez au fil de l'eau?
C'est ça. Alors, c'est les deux, effectivement. Donc, les PME peuvent candidater au fil de l'eau tout au long de l'année. Mmh. Et après, ça fonctionne en saison. Donc, après, il y a des enveloppes budgétaires qui sont définies par la région de France. Il y a des saisons qui sont aussi lancées de manière conjointe entre le Hub France IA et donc la région de France. Et une saison, avec l'enveloppe budgétaire, va pouvoir comporter X projets. C'est simple, il suffit de diviser par 37 000 euros le prix d'un projet. Donc, ça donne le volume de projets qu'on peut passer dans une saison. Et donc le rôle du Hub France IA, c'est d'accueillir les PME, de faire cette réunion de cadrage et les premiers dossiers ensuite qui sont validés par l'IMT derrière. Mais donc sur cette saison, par exemple, on peut avoir 20-30 projets qu'on doit passer dans la saison qui s'étend sur plusieurs mois, et on passe tous les projets que l'on peut jusque dans la limite de l'enveloppe budgétaire.
Et ça existe depuis combien de temps? Vous avez fait combien de projets depuis le début?
Alors depuis le début, justement, cet événement du PAKIA qui a eu lieu à la région Île-de-France à l'auditorium le 4 décembre, c'était pour fêter l'anniversaire des 100 projets qui ont été réalisés.
D'accord.
Donc on a dépassé les 100 projets, hein, et donc voilà, ça existe.
Ça fait pas mal de retours d'expérience, du coup. Ça fait pas mal de capacité à savoir par quel chemin passer pour que ça aille plus rapidement et plus efficacement aussi.
Exactement, l'événement la matinale du 4 décembre, il y a eu plusieurs séquences et les séquences intercroisées étaient notamment des PME du PAKIA qui ont bénéficié du PAKIA et qui faisaient leur retour d'expérience accompagné sur scène du réalisateur en
D'accord.
face qui les accompagnait. Donc on avait à la fois les retours métiers et aussi les retours experts IA. Et donc, c'était forcément des belles réussites, mais il y a aussi eu de la transparence sur les limites de l'IA dans certains sujets et quelles ont été les solutions mises en place pour contourner ça et pouvoir mener le projet à bien.
Ah, c'est bien d'avoir mis effectivement
les
difficultés aussi en avant, qui sont toujours des enseignements importants pour les entreprises. Et on n'est pas obligé d'être une entreprise tech pour participer au PAKIA, au contraire, même être une entreprise tout à fait, enfin plus classique, qui recherche à avoir des nouvelles fonctionnalités IA pour faire avancer son business, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est pas nécessairement pour booster un produit tech, une service tech. C'est vraiment, j'ai une problématique métier. Mmh. Donc, il y en a dans banque, assurance, BTP, finance, industrie, médias et musique, retail, c'est très varié. Donc, voilà, j'ai une problématique métier. Je pense que l'IA peut apporter une solution. Ça, on va le qualifier, nous, Hub France IA, avec eux durant la réunion de cadrage. Et effectivement, si l'IA peut apporter une solution, on définit un cas d'usage bien particulier qui est vraiment une problématique de l'entreprise, de la PME, jusqu'à la réalisation d'illustrateurs. Donc, c'est très varié, c'est pas nécessairement tech.
Et d'ailleurs, on peut commencer par une auto-évaluation de sa maturité IA et donc, du coup, de la manière dont on peut commencer à aborder l'IA dans son entreprise grâce à une auto-évaluation qui est sur le site du PAKIA qui utilise l'indice de maturité Paille. Ça, c'est facile, c'est accessible. Le site dit même que ça se fait en 15 minutes, donc c'est bien pour savoir où est-ce qu'on en est, en fait, finalement, avec l'IA.
Tout à fait, pour se situer la maturité de son organisation. Alors, JPI, c'est le Global Partnership on AI, donc un partenariat mondial qui regroupe plusieurs pays et qui a 4 grands groupes de travail transverses sur lesquels Hub France IA est impliqué. C'est pour ça aussi qu'on a pu mettre en œuvre et qu'on a le droit de pouvoir mettre en œuvre ce test d'évaluation. Et donc, c'est une dizaine de questions qui permet, alors la seule particularité, c'est que le répondant pour l'organisation doit quand même avoir une vision assez large,
ouais, être
de
un
son
peu pilote
organisation
quand même.
Pour pouvoir tout à fait pour pouvoir se projeter. Ça va du niveau de compétences des salariés en interne de l'entreprise, de la capacité à l'entreprise à prendre des risques, Quand on fait l'IA, c'est généralement des sujets à très forte valeur d'innovation, et donc qui dit forte innovation dit fort taux d'échec. Et donc voilà, c'est la maturité aussi de l'entreprise sur le sujet. Donc voilà, ça va regarder ces 10 grandes dimensions avec des options de réponse à chaque fois, et on explique les options de réponse pour aider le répondant à se projeter. Et une fois qu'on a bien ces dizaines de réponses répondues, vu que les options de réponse sont codées derrière, on ne le voit pas, mais un petit score associé à chaque option de réponse, ça donne un scoring global, et c'est ça qui permet de faire le retour sur le scoring de maturité, tout à fait.
Alors, passons maintenant à l'étude, enfin, qui est un peu le sujet principal de cette émission. Pourquoi cette étude? C'était quoi vos objectifs d'étudier un petit peu comment les TPE, PME, ETI se plaçaient vis-à-vis de l'IA? Comment vous avez envisagé les objectifs de cette étude?
Alors, c'est dans le cadre des travaux de ma thèse, qui se porte encore une fois sur les TPE, les PME. Et comme vous l'avez dit en introduction, on a donc ChatGPT qui arrive aux yeux du monde entier fin novembre 2022 et qui introduit l'IA générative au passage. Et donc ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'articles de la part de gros cabinets de consulting ou aussi beaucoup d'états de l'art, d'articles scientifiques sur l'IA générative, et aussi quelques retours d'expérience de la part de grands groupes qui vont avoir une méthode particulière pour tester, valider, évaluer des modèles d'IA générative sur des cas d'usage avant de les déployer. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant toute cette revue littéraire, et bien que la voix des TPE, des PME était très peu représentée, était même sous-représentée dans tout ce collectif d'ouvrages et d'articles.
Les invisibles.
Les invisibles, exactement. Et pourtant, j'avais déjà l'intuition en discutant avec la communauté qu'il y avait un certain nombre de TPE, même les TPE, hein, moins de 10 personnes, ça commence sur l'IA générative, qui pouvaient déjà mettre en place de l'IA générative. Et il n'y avait pas vraiment d'études qui s'adressaient à elles, et surtout d'études assez... complète, parce que j'ai fait une grosse revue aussi pour compléter, trouver des signaux et voir les problématiques qu'il y avait pour les mettre en question, mais vraiment une étude dédiée à elles pour avoir leur retour d'expérience et avoir un signal un peu plus fort que le petit signal faible unitaire à gauche à droite qui est un peu écrasé par la masse d'informations.
Et d'ailleurs, l'étude montre que la taille de l'entreprise, elle joue beaucoup quand même dans la vitesse de mise en œuvre d'un projet. C'est un des premiers enseignements de l'étude, ça, quand même. Il y a un petit gap entre une TPE et un ETI, quoi, et une ETI.
Alors, les TPE, les PME vont assez vite parce que, entre l'idée de déployer une solution d'IA générative sur un cas d'usage bien particulier et la mise en production, on est généralement 3 mois maximum pour le passage en mise en production.
Ils sont agiles.
Ils sont agiles, et alors les ETI sont agiles aussi pour certaines, et en fait les ETI, elles, indiquent dans l'étude qu'elles vont plutôt être autour de 6 mois pour le délai de mise en production, et le retour que je vois dans l'étude, parce qu'il y a aussi des verbatims, c'est que les ETI, leur manière de faire, mais c'est similaire au grand groupe, elles vont commencer déjà à avoir déjà beaucoup plus de procédures, mais surtout elles vont commencer à être plus prudentes sur le déploiement d'une solution d'IA générative. Ça veut pas dire qu'elles ne vont pas faire, ça veut plutôt dire qu'elles vont mettre en place tout un protocole de test dans un environnement de recette bien défini avec un banc de test, et vont passer au crible plusieurs modèles similaires qui peuvent apporter un résultat, une performance similaire, et vont les passer au crible selon différents critères qui sont propres à chaque entreprise. Et donc cette phase de test, de prévalidation et de faire un pilote avant de généraliser prend plus de temps parce que forcément l'impact peut être beaucoup plus important sur l'ensemble de l'activité, sur l'ensemble des collaborateurs qui sont forcément en plus grand nombre.
Et en même temps, elles ont envie de regarder plus loin, non? J'ai l'impression qu'elles dépassent tout de suite l'idée du POC, elles se mettent dans une démarche qui est plus durable aussi par rapport au projet envisagé. Peut-être qu'une TPE veut plutôt se tester, voir un peu comment elle peut en tirer parti rapidement. Il y a quand même cette idée qu'on retrouve en fait dans les critères d'adoption de votre étude, où on voit quand même que du coup les ETI, on a l'impression qu'en tout cas elles se projettent plus loin tout de suite. Est-ce que vous le retrouvez dans les verbatims, cette idée là?
Oui, alors elles ont besoin de se projeter parce que l'IA peut aussi vite coûter cher en termes de projet, donc il faut déjà que le projet, s'il va jusqu'à son terme et qu'elle généralise, elles ont besoin de se projeter sur l'aspect financier.
Tout de suite.
Elles sont très sensibles à ce sujet. Alors les TPE aussi, mais pas nécessairement pour la même question. Les TPE, c'est plutôt sur le coût de la requête et du token. Les ETI vont être très sensibles sur le coût de setup, donc l'initialisation du projet, ensuite de la maintenance, parce que sur l'ensemble des collaborateurs, sur un déploiement plus plutôt généralisées, ça peut vite coûter. Alors elles sont vigilantes aussi au coût du token, hein, forcément, mais ça peut vite coûter très cher. Donc elles sont
peut-être que j'ai
ouais,
peut-être que j'ai extrapolé, mais c'est effectivement l'indicateur que je voyais, où je me disais, mais là tout de suite elle recherche à avoir le coût in fine de la démarche et du projet. Il y a aussi finalement avec le coût de l'infrastructure aussi. Alors là, chacune des tailles d'entreprise finalement fait très attention aussi à son infra existante, et il y a une vraie recherche aussi. C'est un peu plus, il y a pas de différence trop grande entre les différentes tailles de, mais chacun recherche une bonne intégration finalement dans l'existant. J'ai l'impression. C'est aussi ce que vous avez constaté.
Tout à fait. En fait, j'aurais posé la question des critères d'adoption, donc ils avaient une vingtaine de réponses possibles, et c'est assez surprenant parce que les TPE, les PME, les ETI mettent toutes en troisième position l'intégration à l'infrastructure existante. Pas pour exactement les mêmes raisons. Alors les ETI, c'est forcément, mais même au niveau des PME, ça commence. Elles ont un système d'information bien défini avec une architecture, un urbanisme bien défini avec des règles bien définies. Il y a aussi l'aspect cybersécurité qui rentre en compte, qui est très importante. Sur les TPE, alors TPE, ça peut être une personne aussi, hein, c'est quelqu'un qui vient de créer sa boîte, qui est entrepreneur. Donc sur les TPE, c'est voilà, l'infrastructure, c'est pas forcément la priorité parce qu'elles ont pas d'infrastructure en propre pour la plupart d'entre elles. Elles vont plutôt utiliser des solutions cloud ou du SaaS, donc solutions as a service. Donc voilà, pour elles, c'est dématérialiser, c'est plutôt géré par un fournisseur externe, et donc elles, l'infrastructure passe pas forcément au premier plan de leurs préoccupations, mais ça remonte quand même en troisième position. Donc pour elle, c'est plutôt, j'ai pas d'infrastructure, mais je veux être vigilant du fait que ma solution que j'ai pris pour ma TPE, eh bien, si j'intègre des solutions d'IA générative, ça soit compatible et que je n'ai pas de problème entre différents fournisseurs sur le sujet. Ouais. Parce que j'ai pas ma propre infrastructure, je n'ai pas la main, donc je veux m'assurer que ça soit compatible avec l'infrastructure existante et qu'il n'y ait pas de soucis entre parties prenantes.
Et puis, vous avez interrogé aussi les usages principaux de chacune des catégories d'entreprises. Et donc là, c'est assez étonnant. On s'aperçoit finalement qu'elles ont à peu près toutes les mêmes usages, aide à la rédaction, synthèse de documents, analyse de données, ça se retrouve. Et il y a une grande différence, c'est que les TPE ne s'intéressent pas forcément à la partie chatbot, ce que vous avez appelé comme création d'agents conversationnels. Est-ce que ça serait parce que les TPE sont finalement moins submergés par le côté SAV, le côté service après-vente que le chatbot permet de gérer? Comment vous voyez les choses? Pourquoi une TPE elle est moins intéressée par les chatbots finalement en termes d'usage?
Bah, je pense que les chatbots, c'est peut-être déjà un usage un peu plus avancé. Il y a peut-être le frein aussi de se dire, il y a une barrière technique à l'entrée. Je suis une TPE, je vais pas être en capacité. Alors, dans l'étude, les TPE ont très majoritairement cité qu'elles n'avaient aucun profil IA en interne. Ouais. Et donc, peut-être qu'il y a cette peur aussi de dire, il y a une barrière technique pour mettre en place un chatbot. C'est un usage avancé, je ne le fais pas. Au-delà j'en ai pas l'usage.
J'ai pensé aussi au manque de données. Potentiellement.
Alors, au manque de données aussi, et mon propos c'était d'indiquer aussi que maintenant il y a de plus en plus de solutions IA qui sont développées par les startups IA, notamment pour des chatbots, qui proposent des solutions no-code ou low-code. Et donc en fait, j'ai ma base de connaissances, je peux drag and drop des documents ou taguer des URL, ça va constituer ma base de connaissances grâce au RAG, et dessus je vais pouvoir déployer un chatbot, et même sans faire un site internet moi-même, on peut prendre WordPress qui ont des plugins, et il y a de plus en plus une bibliothèque de plugins qui se crée sur le sujet. En fait, la barrière technique, en fonction des solutions que je vais adopter, peut ne pas être un sujet. Mais effectivement, il y a la question de la maîtrise des données, d'avoir suffisamment de données pour pouvoir les faire. Tout à fait. Mmh. Et en plus, ce qui remonte, c'est que c'est pas nécessairement qu'elles n'ont pas l'usage, parce qu'il y a certaines TPE, par exemple, qui vont mettre en place une marketplace, une boutique pour vendre leurs services, qui peuvent avoir des retours clients. Et en fait, vu qu'elles ne sont pas beaucoup dans la TPE par définition, puisqu'ils sont moins de 10 personnes, ça peut encore une fois être 2-3 personnes, c'est vrai qu'un chatbot peut vraiment leur faire du bien pour traiter les sollicitations entrantes SAV ou même en pré-vente pour conseiller le client sur un produit ou autre. Mais je pense que c'est plus la crainte de la barrière technique de ce que j'ai pu constater dans les verbatim de l'étude.
Écoutez, donc en tout cas, cette étude, elle est très complète. On la retrouve, j'imagine, très bientôt sur le site du Hub prochainement.
Oui, alors les résultats que j'ai présentés durant l'événement du PACIA le 4 décembre étaient les résultats, on va dire, allégés de la version. J'ai mis en avant certains sujets. J'ai des résultats beaucoup plus complets. Et donc là, je suis en train de produire le rapport détaillé des résultats qui devrait très certainement, effectivement, se retrouver sur le site du Hub Francia, je l'espère, d'ici fin janvier. Ouais. Et donc, disponible à la vue de tous.
Gros travail. Mais écoutez, merci beaucoup, Pierre, pour ce décryptage, pour ces premières explications. Après, il faut se pencher dans l'étude pour bien comprendre, en tirer le maximum de valeur. Merci Pierre Monger pour tout ce décryptage.
Et bien, merci Jean-Philippe pour l'accueil et pour avoir donné la possibilité d'évoquer le résultat de l'étude.
Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler l'algorithme. Vous restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.